7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. L'école à la radio, depuis hier, notre émission, vous le savez, se transforme. On essaye de mieux répondre à vos besoins. 1,5 milliard d'apprenants sont désormais déscolarisés dans au moins 165 pays. Ça fait du monde. Et pour vous, les parents, c'est pas simple. C'est pourquoi on réunit des enseignants d'école primaire qui vous proposent chaque jour des activités, des exercices pour vos enfants, donc en école primaire. Alors hier, on a fait du langage, de l'écriture. Aujourd'hui, c'est du calcul avec des problèmes mathématiques. Et pour les plus jeunes, et aussi pour ceux qui sont en fin d'école primaire, mais vous allez découvrir un super prof mordu de problèmes mathématiques dans quelques instants. À la récréation, ce sera un conte mandingue lu pour vos enfants par la comédienne Héloïse Auria, Juju et le pêcheur. Et à ne pas manquer ensuite, la chronique de Didier Akwété, faire survivre le business en Afrique au temps du coronavirus. On parlera de la crise de la restauration et Maki. Et puis il a aussi un petit coup de gueule à pousser. Et bien sûr, on a besoin de vos réactions, de vos questions, uniquement sur WhatsApp, 33 1 84 22 71 71. L'émission est réalisée en direct, chaque jour, avec une équipe en confinement, en studio. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Hugo Violas et moi-même, on est tous éparpillés. Moi, je suis en studio avec Hugo Violas. Donc les voisins, les voisines, on a vraiment besoin de vos nouvelles. Dites-nous comment ça se passe à l'école, plutôt à la maison, l'école à la maison. Partagez vos problèmes, partagez vos conseils. Dites-nous si l'école à la radio est à la portée de vos enfants. On a lancé comme ça cette école à la radio, un peu comme une bouteille à la mer dans un océan de besoins, notamment sur le continent africain. Alors envoyez vos réactions, vos suggestions, vos questions, et les enfants aussi d'ailleurs, on aimerait bien. Message audio ou écrit, uniquement sur WhatsApp. Je vous rappelle le numéro 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Je vous donne quelques nouvelles des voisins dans ce monde confiné. Richard est à Goma, à l'est de la RDC. Après l'annonce de la fermeture des écoles, nous écrit Richard, j'ai multiplié l'achat de jouets aux enfants. Mais avec cette émission, on saura quoi faire de plus avec les enfants. Merci Richard, mais surtout gardez votre argent pour l'achat de denrées alimentaires ou des livres. Hein, on va pouvoir les occuper, vos enfants. Wittenberg est en Haïti. Il nous dit, je vous écoute avec mon petit frère. Les exercices sont très bien. Mon petit frère vous écoute. Il fait les exercices. Bon, bah, ça, c'est déjà bien. Je vous remercie pour cette nouvelle formule d'école pour les enfants. Une auditrice de France nous dit, moi, je suis une adulte. Je trouve que vos cours à la radio, ils vont très vite. Donc, on a bien pris note. On va essayer de ralentir pour ne laisser personne sur le bord de la route. Alors, bien sûr, des élèves qui ont déjà appris les bases et qui peuvent faire les exercices qu'on donne. Merci. Et puis, un message de Bouna, enseignant en Mauritanie. Il a posté sur WhatsApp.
Bonjour Emmanuel, bonjour le monde. Je suis Bouna Oulahmedou, directeur d'une école à Nouakchott qui s'appelle Noura. Nous avons commencé à Nouakchott le confinement depuis le 14 mars. Dès la semaine après, j'ai commencé à explorer les cours en ligne via WhatsApp. J'ai créé des groupes WhatsApp pour les trois plus grandes classes de mon école pour voir. Au début, les élèves n'étaient pas nombreux du tout, 5-6 élèves. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas de téléphone ou bien ils ne respectaient pas le confinement. Maintenant, chaque jour, j'accueille de nouveaux élèves, de nouveaux numéros de téléphone qui me demandent de les ajouter. Les professeurs qui étaient ajoutés et qui ne réagissaient pas, ils ont commencé à intervenir eux aussi. Au début, c'était chaque professeur lançait comme ça un exercice sur la page et les élèves essayaient de faire l'exercice et de l'envoyer sur la page personnelle du professeur. Maintenant, depuis 2 jours, nous avons commencé des cours. Le professeur, il enregistre une courte vidéo pour expliquer un cours. Les élèves regardent et après, il écrit les choses à retenir et les élèves écrivent. Ça va de mieux en mieux. Nous sommes en train d'aplanir les difficultés de plus en plus. Les professeurs, ils envoyaient parfois des photos d'un cours qui est écrit sur le cahier et maintenant ils saisissent sur le téléphone ou bien l'ordinateur et ils envoient. Et les élèves commencent à s'habituer à écrire eux aussi parce qu'ils nous envoyaient surtout des exercices écrits avec la main sur le cahier et maintenant ils commencent à avoir l'habitude d'écrire sur le téléphone ou bien sur l'ordinateur. Et je trouve que ça va mieux et nous allons essayer de continuer et de nous améliorer.
Merci Bouna, ça va de mieux en mieux, ça fait du bien comme genre de phrase en ce moment. L'école sur un groupe WhatsApp, voilà comment ça commence. Bravo à vous Bouna, bravo aux enseignants. C'est quand même une révolution qui vous tombe dessus, qui nous tombe dessus dans la façon d'enseigner. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de sens d'adaptation. Et bravo aux enfants aussi qui, peu à peu, se motivent tout seuls devant un smartphone ou un ordinateur quand ils en ont. Mais en tout cas, maintenant vous êtes plus seuls, il y a 7 milliards de voisins, l'école à la radio.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Allez, vous êtes prêts? Les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les parents, les grands frères, les grandes sœurs aussi, pour aider les plus jeunes. Vous avez un papier, vous avez un crayon, vous avez une gomme. On va faire des problèmes mathématiques et des jeux avec Gérard Sans Faute. Bonjour Gérard.
Ah ben, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Emmanuel.
Gérard, vous avez plus de 40 ans d'enseignement en école primaire. Et alors, votre patronyme, Gérard Sans Faute, hein, quand même, ça ne s'invente pas. On a dû vous faire souvent la même blague, hein, monsieur Sans Faute. Est-ce que vos élèves sont aussi parfaits que vous?
Les parents me demandaient si j'avais inventé un nom pour mon travail.
Ah oui. Non. Eh ben non, c'est peut-être pour ça que vous êtes devenu prof, hein, finalement.
Peut-être, sûrement, peut-être.
Alors, quel est le programme de votre séance, Gérard Sans Faute?
Alors, moi, je viens d'abord vers vous parce que j'aime les mathématiques. Et je voudrais que vous aimiez tous les mathématiques. Parce que moi, je pense que tout le monde peut aimer les mathématiques. Et pour ça, nous, on va faire des jeux, du calcul mental, des problèmes. Moi, j'adore les problèmes.
Vrai que moi, personnellement, en recevant le document que vous m'avez envoyé, je me suis demandé si je préférerais pas aller chez le dentiste. Mais tout compte fait, je pense que ça va bien se passer parce que vous êtes là, parce que c'est vous, Gérard Sans Faute.
Eh bien, mon but, c'est de vous faire aimer les mathématiques encore plus. Voilà.
Alors, on va démarrer, Gérard. Pour les plus jeunes, hein, d'abord.
Alors, on commence par un jeu pour les plus jeunes, mais ça va intéresser aussi les plus grands. Hein. Il faut qu'ils restent là. Et comme tout à l'heure, les plus jeunes, ils pourront écouter ce que feront les plus grands. Alors, dans le premier jeu, j'ai 4 cailloux dans la main gauche. J'ai 4 cailloux dans la main droite.
Donc, j'ai 4 cailloux dans la main gauche, j'ai 4 cailloux dans la main droite.
Voilà. Et je les mets tous ensemble. Grelis grelot, combien de cailloux dans mon petit sabot? Vous avez entendu. Alors, les cailloux, je les donne à Emmanuel.
Bon, donc, moi je les ai tous posés sur la table.
Voilà, c'est posé. Et moi, je m'adresse à tous les enfants. Vous pensez qu'elle en aura combien? Alors, je prends les paris. Chaque enfant doit parier pour trouver combien il y aura de petits cailloux devant elle. Alors, je ne sais pas, il y en aura peut-être 5. On ne sait pas.
Ouais.
Alors, on va vérifier.
Ouais.
Alors, prends les cailloux.
On les compte? Comment on fait?
On les prend un par un. Alors, un... Je prends un autre caillou, encore un, ça fait 2. Encore un, ça fait 3. Encore un, ça fait 4. Encore un, ça fait 5. Encore un, ça fait 6. Encore un, ça fait 7. Encore un, ça fait 8 et il n'y en a plus. Eh bien, il y en a 8. Bravo.
Voilà.
Et on a trouvé qu'il y avait 8 cailloux.
C'est ça. Et si on n'avait pas eu de cailloux, si on était passé un peu au stade au-dessus, on aurait pu imaginer les 4 cailloux dans une main, les 4 autres cailloux dans l'autre main, 4 plus 4.
Oui, et moi j'ai même des élèves, ils préfèrent faire un paquet de 5. Alors ils en mettent un au milieu et 4 autour, ils font un paquet de 5.
Ouais.
Ils en mettent 3 à côté.
Ah oui.
Ils savent par cœur que quand ils voient un petit tas de 5, un tas de 3 à côté, ils savent par cœur que ça fait 8.
Ah oui, c'est ça. Ils ont appris un peu comme une table de multiplication. 5 plus 3, hop, ça fait 8.
Ben, ils ont vu ça, ils ont ça sous les yeux dans la classe, le paquet de 5.
Ouais, parce
et le
que je sais que vous faites beaucoup de calculs mentaux chez vous.
Ah ben oui, ben c'est ça les mathématiques. Hein. C'est aussi faire du calcul mental. Alors, les parents qui vont faire ce jeu, eh ben, ils changent le nombre de petits cailloux, mais ce jeu-là, c'est avec plutôt des petits nombres.
Alors, il y a un deuxième jeu avec des cailloux, un peu plus difficile.
Ah oui, alors là, pour ce deuxième jeu, ben, on va jouer tous les deux, hein, moi et Emmanuel, mais après, les enfants pourront jouer avec leurs parents, hein, et bon, ça, faire ce même jeu à deux. Alors, Emmanuel, vous avez un tas de cailloux devant vous. Et moi, j'ai un tas de cailloux devant moi. Mm. Alors, qui a le plus de cailloux? Moi, en regardant comme ça, je crois que c'est moi qui ai le plus de cailloux. Parce que je crois que j'en ai beaucoup. Hein. Alors, je vais parier combien j'en ai. J'en ai, oh, je vais dire 61.
Oui, mais comme ça, vous regardez juste à vue de nez.
Ah ben bah oui, et vous, votre tas, il y en a à peu près combien à vue de nez?
Bah écoutez, il y en a combien? Bah là, écoutez, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que vous me dites?
Bah, vous dites, moi, si je regarde votre tas au hasard, je vais dire, il y en a peut-être 52. Hein,
oui, c'est ça, j'en ai moins que vous, hein, c'est clair.
Bah, je sais pas, on va voir.
Bon, moi, alors là, on est en train de faire de la devinette, on fait pas des maths, là,
ah,
Gérard.
Ah bah oui, là, on fait des paris.
Ah, on fait des paris, c'est ça. Ouais.
Et puis après, ben, une fois qu'on a parié, il faut vérifier. Mmh. Alors, pour vérifier, ben, on va faire des tas de 10.
Oui, parce que c'est ça. Comme il y a beaucoup de cailloux, on ne va pas commencer à les compter tous un par un parce qu'on va se perdre. Donc, on fait des paquets.
On fait des petits tas de 10. Mmh. Alors, moi, je vais faire des tas de 10 de mon côté. J'ai déjà commencé. Ben, vous commencez aussi. Alors, je fais un petit tas de 10, 2 tas de 10, 3 tas de 10. Et il me reste 7 cailloux tout seul. Mmh. Alors, j'ai 3 tas de 10, j'écris 3. Et 7 cailloux tout seul, j'écris 7, juste à côté, à droite. C'est 37.
Et ben
moi,
voilà.
J'en ai 37.
On colle le 3 et le 7, ça fait 37. Et alors, moi, je vais faire la même chose. Hein. Alors... Je vais faire 4 tas de 10.
Ah ben bravo, hein, vous avez 4 tas de 10.
Voilà, et... donc je vais écrire 4, comme vous m'avez dit.
Voilà.
Et puis il m'en reste 5 là, tout seul.
Ouais.
Donc je rajoute le 5 à côté du 4. C'est
bravo.
Ça, hein.
C'est super. Mais alors, moi j'ai pu faire que 3 tas. Et vous avez fait combien de tas?
Ben moi je crois que j'ai fait 4 tas, hein, si je ne me trompe pas.
Ah, ben alors, vous en avez plus que moi. Moi, je n'ai pas pu faire 4 tas, j'en ai fait que 3.
C'est
et
ça.
Vous avez pu en faire 4.
Donc, voilà, j'en ai plus que vous. Et vous voulez qu'on l'écrive, ça?
Ah ben, oui. Et pour l'écrire, ben, moi, c'est 37, 3 et 7. Vous, on écrit plus loin 45, 4, 5. Mm-hmm. Et entre les deux, on peut dire que 37 est plus petit que 45.
Ouais.
Pourtant, moi je croyais au début que j'allais en avoir plus, parce que moi dans mon nombre, j'ai un 7.
Mmh. Exact.
Et c'est le plus grand. Vous n'avez pas de 7.
Non, mais j'ai pourtant, un 4. J'ai un 4 et vous avez un 3.
Mais moi j'ai un 7, mais mon 7 il compte pas parce que c'est dans les unités, c'est des petits cailloux tout seuls.
Exact. Mais comment donc, on écrit, Gérard, alors 37 45, et au milieu, on met quoi pour montrer que 37, c'est plus petit que 45?
On écrit 37 est plus petit que 45. Alors, il y a un signe mathématique, mais on le verra peut-être une autre fois quand on... il y a un signe. Pour l'instant,
on peut peut-être 37... le donner, le signe, parce que moi, ça m'a rappelé des souvenirs, hein, ce signe.
Oui, alors,
c'est comme un V, c'est un V qui est allongé, quoi, dans son lit.
Voilà, et... Moi, je disais, c'est un peu comme la gueule d'un crocodile.
Ah, pas bête.
Et le crocodile, il veut manger le plus gros morceau.
Ah,
donc
il ouvre sa gueule.
La gueule du, cro- du crocodile voilà. se tourne vers le plus grand nombre.
Voilà. Et moi, j'avais appris un truc beaucoup moins bien que ce que vous nous enseignez, Gérard. J'avais appris la pointe touche le plus petit. Mais j'aime bien l'histoire du crocodile qui veut manger le plus gros. Donc, il ouvre sa gueule vers le 45. Et donc, on a ce fameux voilà. signe, ce V allongé, qui s'ouvre vers le 45 pour dévorer le plus gros. C'est Mais, super.
Et on peut écrire le 45 d'abord. Et on peut dire 45 est plus grand que 37. Et on met la gueule du crocodile vers le premier nombre.
Voilà, on retourne la gueule voilà. du crocodile. Alors, avec les parents, on peut jouer comme ça indéfiniment, hein, avec des grains de riz, des cailloux.
Tout à fait, tout à fait. Il faut changer le nombre de cailloux, on peut prendre autre chose. Et les enfants, ils adorent. Hein. Là, où ils sont en train d'écouter, ils pourront jouer après. Ils prennent une petite poignée, ils font des paquets de 10. Et on verra plus tard que des fois, il y a des petits soucis qui arrivent, mais on en reparlera plus tard. Quand on prend encore plus de petits cailloux.
Gérard sans faute, maintenant vous nous proposez, ça ressemble comme ça vu de loin à une devinette, mais ce n'est pas tout à fait ça. On va parler des problèmes mathématiques et vous allez nous poser des questions pour qu'on sache vous dire si oui ou non il s'agit d'un problème mathématique, c'est bien ça ?
Voilà, il faudra me dire si le texte que je lis, c'est un problème de mathématiques ou non.
Alors les problèmes mathématiques, on aborde ça assez rapidement quand même à l'école, dès qu'on commence un peu à savoir compter. Hein.
Ah ben, on commence même avant de savoir compter, ça, on en fait en maternelle hein, des petits problèmes.
Ah, oui.
J'ai une élève qui avait 8 ans qui m'a dit un jour « Ah mais alors on faisait aussi des problèmes à la maternelle ».
Ah oui.
Alors je lui ai dit « Ah ben c'est bien, tu viens de t'en rendre compte, on en fait aussi à la maternelle ». Alors là, comme vous avez tous fait des problèmes, vous devrez me dire si oui ou non, c'est un problème. Alors je lis le premier texte. Pierre achète un téléphone portable à 139 euros et un jeu vidéo à 121 euros. Combien va-t-il dépenser ? Je répète. Pierre achète un téléphone portable à 139 euros et un jeu vidéo à 121 euros. Combien va-t-il dépenser ? Alors, qu'avez-vous dépensé ? Alors, que vous avez répondu ? Alors,
on leur laisse deux secondes pour réfléchir ?
De toute façon, ils doivent écrire seulement oui ou non. Est-ce que c'est un problème ?
Ah oui, donc là, on ne cherche pas à vous donner le résultat. Est-ce que c'est un problème mathématique ? Oui ou non ?
Voilà.
Ce que Gérard sans faute vous a demandé. Est-ce qu'il s'agit d'un problème mathématique, oui ou non ?
Voilà. Donc là, comme pour trouver la solution, il fallait calculer 139 plus 121, eh bien, oui, c'est un problème de mathématiques.
Parce qu'on nous a demandé de faire un calcul, c'est ça. Vous nous avez demandé de calculer.
Voilà, et je suis sûr qu'il y a même des enfants qui ont déjà fait le calcul. Parce qu'il y en a, ils sont forts en calcul mental, ils savent faire 139 plus 121 dans leur tête, mais on apprendra plus tard. Et la réponse, ça serait, il va dépenser 260 euros, mais ça, je ne vous le demandais pas. Il fallait juste me dire si oui ou non. C'était un problème de mathématiques.
Alors, un autre problème de mathématiques ?
Alors, j'en ai un autre et vous allez me dire si oui ou non, c'est un problème de mathématiques. Alors, je lis. Pour aller en vacances, Agnès a voyagé avec ses parents. Le matin, ils ont parcouru 235 km et l'après-midi, 196 km. Je répète, pour aller en vacances, Agnès a voyagé avec ses parents. Le matin, ils ont parcouru 235 km et l'après-midi, 196 km.
Ouais, bah c'était avant
Alors,
le coronavirus.
Est-ce que c'est un problème ?
Déjà, on pouvait circuler.
De mathématiques.
Alors, j'ai vu Hugo qui prenait des notes, là, donc voilà.
Donc s'il prend des notes, c'est qu'il est en train de faire un problème. Il pense que c'est un problème.
Bah, eh bien, non. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo, là? Il est à la réalisation de l'émission. Moi, il y a un truc qui me perturbe, là. C'est que, Gérard, vous nous avez raconté le voyage d'Agnès. Hein. C'était à l'époque où on pouvait bouger. Il n'y avait pas le coronavirus. Elle a parcouru pas mal de kilomètres. Mais en fait, vous ne nous avez pas posé de questions, Gérard.
Ah, ben vous avez trouvé. Quand il n'y a pas de questions, ce n'est pas un problème de mathématiques. Donc là, il fallait dire non. Ce n'est pas un problème de mathématiques. À la limite, ça serait le début d'une histoire et je serais le professeur de français, je vous dirais raconter la fin de l'histoire.
Oui, c'est le récit
mais
de son voyage.
Je suis le professeur de mathématiques, moi je dirais que j'ai envie d'ajouter une question.
Voilà. Donc un problème de mathématiques, il y a toujours une question à résoudre, c'est ça?
Voilà.
Bon, on en fait un vrai de vrai maintenant de problème de mathématiques, Gérard.
Ah ben oui. Mmh. Ah ben maintenant on va en faire un ensemble et ensuite ça sera aux enfants d'en faire tout seul.
Alors là il y a plus de cailloux, hein. Il y a le crayon, la gomme, la feuille de papier et on s'y met tous. Hein.
Voilà. Alors on va résoudre le problème, mais on va le résoudre ensemble. Alors écoute bien le problème. Dans une épicerie, Monsieur Mangetot achète 4 bananes, 5 mangues et 6 citrons. Combien de fruits Monsieur Mangetot achète-t-il? Je répète, dans une épicerie, Monsieur Mangetot achète 4 bananes, 5 mangues et 6 citrons. Combien de fruits M. Mangetot achète-t-il? Alors, et là je m'adresse aux parents. Quand on a lu l'énoncé du problème, il faut demander aux enfants de raconter l'histoire du problème. Parce que vous avez vu, un problème, ça raconte une histoire.
Oui, exact.
Et alors, on peut les enfants, il faut laisser les enfants dire que ça parle d'un monsieur qui va à l'épicerie. Et puis il achète des bananes. Et puis si on peut dire aux enfants, mais il y en a combien des bananes? Alors des bananes, il y en a 4. Mmh. Et des mangues, ben, il y en a combien? Il y en a 5. Et des citrons, ah ben, il y en a combien? Il y en a 6. Et après, quand on a raconté l'histoire du problème, il faut demander aux enfants, que nous demande-t-on? La fameuse question. Mmh. Alors, là, on lui demande de trouver combien de fruits il achète.
Donc de mélanger tous les fruits, hein. On est bien d'accord. On va additionner les bananes, les mangues, les citrons.
Voilà. Et après, donc, il faut laisser les enfants chercher tout seuls. Et pendant tout le temps qu'ils cherchent, il ne faut pas les déranger. Si vous trouvez que c'est pas comme vous pensez, il faut laisser l'enfant faire sa recherche tout seul. Et on n'intervient qu'après.
Alors, on va leur laisser là quelques secondes, hein, si vous êtes d'accord,
voilà.
Gérard.
Et moi, oui. Ben, on peut leur laisser le temps de chercher. Et moi, je suis un maître un peu spécial. J'arrive à voir un peu ce que font les enfants de loin.
Ah oui?
Et, j'en vois qui sont en train de dessiner 4 bananes. Et j'en vois qui dessinent des mangues, j'en vois qui dessinent des citrons. Mmh. Et puis, là, ils ont fait un dessin, ceux-là.
Ouais.
Et une fois qu'ils ont dessiné, il m'a dessiné une belle banane. Il ne faut pas dessiner une belle banane, sinon tu n'auras pas le temps de finir.
Hein. Ouais.
Il faut pas faire... Alors, les bananes, on peut faire des petits bâtons.
Oui, mais attendez, en même temps, c'est bien comme ça. Après, ils vont compter.
Ils vont compter,
ils n'ont pas besoin de faire du calcul mental, là.
Oui, mais moi, je ne suis pas le professeur de dessin. Moi, les bananes, je mets... je vais mettre 4 bâtons.
D'accord.
Et puis les mangues, moi, je vais mettre 5 ronds. Mm-hmm. Et les citrons, moi, je vais mettre 6 croix. Mm-hmm. Et après, on peut compter. Alors, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15. Bah, ça y est, j'ai trouvé. C'est 15.
Ouais, moi
et
aussi.
Je peux écrire la réponse. Monsieur Mangetot achète 15 fruits. Et c'est la bonne réponse. Alors, quand on fait un problème, on écrit toujours la réponse entière.
Oui, mais alors Gérard, alors, est-ce que c'est pas mieux d'écrire aussi comment on est parvenu à ce résultat ? Est-ce que vous attendez pas là de nous tous qu'on vous dise comment on a trouvé ce 15 ? Parce que là vous avez compté à la main vos bâtons, vos croix et tout.
Là, c'était une façon de faire. Et pour moi, déjà, si un enfant fait ses petits schémas et qu'il compte, moi, je lui mets en face « bravo ». Il a trouvé la bonne réponse. Mmh. L'élève qui a trouvé ça, c'est bien. Mmh. Mais c'est sûr que c'est un petit peu long. Et il y a une autre façon plus rapide. J'ai vu d'autres élèves, là, ils m'ont écrit 4 plus 5 plus 6 égale 15. Ils ont fait l'addition. Mmh. Alors c'est sûr que c'est plus rapide en faisant l'addition. Il y avait cette autre façon pour trouver le résultat. Et même pour trouver ce résultat, quand on calcule 4 plus 5 plus 6, on peut compter 4 plus 5, ça fait 9. Mmh. 9 plus 6, là c'est déjà plus difficile, on change de dizaine pour arriver à 15, mais il y en a qui sont plus astucieux, ils mettent le 6 et le 4 ensemble.
Eh ben voilà, moi j'avais fait ça évidemment. 6 plus 4, ça c'est un automatisme. Hein.
Voilà. Mmh. Et on sait que ça fait la dizaine. 6 plus 4, ça fait 10. Et on n'a plus qu'à ajouter le 5 et ça fait 15, ouais. Et c'est plus rapide.
C'est ça.
Donc vous avez vu, il y en a qui peuvent aller plus vite les uns que les autres. Mais ceux qui ont besoin de faire un schéma, un dessin, il faut les laisser faire le schéma et le dessin au début. Et
bien
petit
sûr.
À petit,
tout dépend
ils basculent.
À quel niveau on est à l'école, hein, bien sûr.
Mm. Ben oui, voilà. Mm. Et il y a toujours des façons plus expertes qui font aller plus vite.
Et on a bien retenu le conseil aussi pour les grands frères, les grandes sœurs ou les parents là, qui sont avec les enfants, bien laisser le temps aux enfants de réfléchir, d'abord de raconter le problème, hein, de re-raconter l'histoire, de bien comprendre la question, et puis ensuite de chercher un peu. Gérard Sans Faute, on va passer maintenant à une histoire avec des boîtes d'œufs. On se dirige lentement mais sûrement vers un petit casse-tête.
Avec les boîtes d'œufs, là c'est un problème. Ben, je vais vous le dire et vous devrez le faire tout seul après l'émission.
Ouais, parce que ça c'est un problème, on arrive directement là à un problème qui est quand même nettement plus compliqué. Hein.
J'en ai un. Le premier, il est relativement compliqué encore. Mais après, dans les problèmes que je vais laisser sur Internet, il y en a un vraiment très difficile. Là, je vais lire le premier. Sur les œufs.
Allez-y.
Alors, écoutez bien le problème. Madame Toussaint achète 3 boîtes de 6 œufs. Combien d'œufs achète-t-elle ? Je répète. Madame Toussaint achète 3 boîtes de 6 œufs. Combien d'œufs achète-t-elle ? Alors, quelle est l'histoire du problème ? Il faut toujours commencer par ça. Alors, si la maman interroge son enfant, l'enfant peut lui répondre, ça part d'une dame. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame ? Elle va acheter des œufs, des boîtes d'œufs. Alors, il y a combien de boîtes ? L'enfant, il répond, il y en a 3. Et il y a combien d'œufs dans chaque boîte ? Il y en a 6. Et que nous demande-t-on ? Là, on nous demande de trouver combien elle achète d'œufs. Alors, quand vous ferez tout seul le problème, il faudra écrire une phrase-réponse. Il faudra écrire « elle achète œufs ». Enfin, j'ai fait « parce que je donne pas la réponse, il faut la trouver. Alors, pour trouver la réponse, comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire un schéma. On peut dessiner, on voit tout de suite, hein, on peut faire des boîtes, des œufs qu'on met dans les boîtes, on peut dessiner. Mais il y a aussi une autre façon plus rapide avec des calculs. On peut chercher avec la façon qui vous convient le mieux.
Alors, Gérard sans faute, on donnera la réponse et surtout vous allez chercher. Et puis en bonus, Gérard, on va poster sur internet un autre problème qui est nettement plus difficile où il y a plusieurs solutions possibles parce que alors là c'est un épicier qui vend des œufs, il a 360 œufs, on va vous mettre ça sur internet, il y a des boîtes de 4, des boîtes de 10, enfin là ça sent vraiment le casse-tête, j'ai commencé un peu à le résoudre mais il y a de quoi s'occuper. On va vous poster le problème le plus difficile sur internet et on donnera la solution jeudi également, parce qu'on vous retrouve jeudi, Gérard sans faute, on fera également des jeux, à la fois des jeux très simples et puis d'autres un petit peu plus difficiles. Merci beaucoup à vous, Gérard sans faute, d'avoir été en ligne avec nous. Et les voisins adultes, si vous êtes passionnés de maths, et ben sachez que RFI Savoir, sur le site rfi.fr, vous propose des connaissances et tout un dossier intitulé sur le monde et les mathématiques avec des émissions sur ces sujets, notamment des émissions de mon amie Caroline Lachowski. Et on vous met le lien sur notre page RFI Savoir, Comprendre, Enrichir, Science, Le Monde et les Mathématiques. Voilà, merci à vous Gérard, à très bientôt. Merci à vous aussi les enfants, vous restez surtout avec nous. Et les grands frères et les grandes sœurs, on a bien travaillé quand même, on mérite un tout petit peu de détente. On va partir pêcher, ouais, ça c'est relax hein, la pêche. Je ne sais pas si vous pêchez Gérard.
Non, moi je pêche pas, moi j'ai juste des canards près de chez moi qui se promènent.
Ah, c'est chouette ça. Eh ben en tout cas, on va pouvoir entendre les oiseaux, le bruit de l'eau, plus de voitures, un peu comme au temps du coronavirus où la nature reprend ses droits. Ça sera juste après Magic System. Feel the magic in the air. Milliards de voisins, l'école à la radio. On est en direct sur RFI, on est tous ensemble, même si on est tous confinés, on se motive pour continuer à apprendre. Maintenant, une histoire comme chaque jour, racontée par Héloïse Auria, comédienne. Aujourd'hui, Joujou et le pêcheur.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
Joujou et le pêcheur. Il était une fois un pêcheur qui vivait au bord d'un fleuve. Toute la journée, il pêchait à la ligne ou au filet, mais prenait aussi le gibier, au collet ou dans les pièges. Un jour, lorsqu'il était en train de pêcher à la ligne, un gros poisson mordit. Quelle belle prise ! Se félicita le pêcheur. Il tira de toutes ses forces et sortit de l'eau l'esprit Joujou. Celui-ci tenait une énorme hache à la main et riait comme un démon. Épouvanté, Le pêcheur arriva tout juste à articuler. « Que fais-tu ici ?» Juju rit de plus belle.
« J'ai voulu juste t'agacer un peu !»
Lorsque le pêcheur comprit que Juju n'était pas le monstre féroce pour lequel il le prenait, mais plutôt un farceur, il prit son courage à deux mains. « Alors, ne recommence plus. À la place du gros poisson que j'attendais, c'est toi que j'ai pêché. Au lieu de m'aider, tu viens jouer les troubles faites. »
« Je ne vois pas pourquoi je devrais t'aider. »
Le pêcheur toisa Juju et conclut. « Tu as raison. Comment pourrais-tu m'aider ? Tu as autant de force que la vapeur qui sort d'une marmite. Tu tiens à peine sur tes jambes. » Juju se vexa.
« Moi, j'ai autant de force que la vapeur au-dessus d'une marmite. Viens, nous allons mesurer nos forces. »
« D'accord. » Au bout d'un moment de réflexion, Juju décida.
« Voyons qui de nous deux lancera cette hache le plus haut !»
Il regarda le ciel et scruta les environs avant de lancer la hache en l'air. Le pêcheur voulut savoir. « Qu'as-tu à regarder ainsi autour de toi ?»«
Je ne voudrais pas que la hache me retombe sur la tête !»
C'est alors que la hache retomba dans le fleuve, soulevant des trombes d'eau qui vinrent arroser les deux rives. Juju, qui avait plongé pour récupérer sa hache, n'émergea qu'au bout d'un bon moment.
Ah, j'ai eu du mal à la dégager. Elle s'était enfoncée profondément dans le fond de la rivière.
Il tendit sa hache au pêcheur.
À toi de lancer.
Le pêcheur, qui avait déjà bien du mal à la soulever, déclara.
Je n'ai même pas besoin de regarder autour de moi. Une fois que je l'aurai lancée, elle ira se ficher tout droit dans le ciel et ne retombera plus.
Juju prit peur.
Attends, ne la lance pas, ce serait dommage de perdre une si belle hache. Faisons plutôt une course à pied.
Le pêcheur fut d'accord. Courons jusqu'au bout de ce sentier que les antilopes empruntent pour aller à l'abreuvoir. Il avait creusé un trou dans ce sentier et l'avait couvert avec des branches, espérant y piéger une antilope imprudente. Juju s'élança et tomba dans le trou. Le temps qu'il mit à en sortir permit au pêcheur d'arriver au bout du sentier.
« Tu as encore perdu » rit-il. « Veux-tu que nous continuions à mesurer nos forces ?»«
Je veux bien, mais cette fois, c'est à toi de choisir le mode de compétition que tu préfères.
Nous allons pêcher et nous verrons bien qui de nous deux prendra le plus de poissons. »
Le pêcheur prêta au stupide Juju une canne et ils se mirent à pêcher. Juju n'avait encore jamais pêché, si bien qu'il n'arrêtait pas de courir au bord de l'eau, tandis que le pêcheur sortait des poissons de l'eau l'un après l'autre. Bon joueur, le pêcheur lui conseilla, « Tiens-toi tranquille, sinon tu vas effrayer les poissons et tu n'attraperas rien du tout. »
« Je ne peux pas rester sans bouger !»
répondit Juju.
« Il faut que je cours sans relâche !» Ou au moins que je remue.
Et dans ce cas, il vaut mieux que je t'attache à un arbre. Juju acquiesça.
Oh, d'accord, mais attache-moi solidement.
Le pêcheur l'attacha à un arbre qui poussait au bord de l'eau en serrant la corde tant qu'il put. Bien qu'il restât sans bouger, Juju ne prit pas de poisson. À la fin, il en eut assez.
Ça suffit, détache-moi.
T'avoues-tu vaincu? Questionna le pêcheur.
« Oui, j'ai perdu, mais détache-moi! Pour moi, c'est une terrible épreuve de rester ainsi, sans bouger !»
Le pêcheur ne l'entendait pas de cette oreille. « Non, je ne te détacherai pas. Tu en profiterais pour m'importuner encore. »«
Je ne t'ennuierai plus jamais !»
promit Juju. « Est-ce bien vrai ?»«
Parole de Juju !»«
Et tu rabattras le poisson dans mes filets ?»«
Oui !»
Et le gibier dans mes pièges ?
Oui, 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 mais détache-moi ! Pleurait Juju. Il faut que je cours, que je remue un peu !
Le pêcheur délivra Juju qui, depuis ce jour, rabattit le poisson dans ses filets et le gibier dans ses pièges. Les villageois qui lui achetaient son poisson et son gibier furent consternés par l'abondance de ses prises. Le pêcheur devint un homme riche et important, car grâce à sa ruse, il avait réussi à asservir le fougueux Jojo.
C'est un conte mandingue que vous venez d'entendre, Jojo et le pêcheur, mis en onde par Romain Dubrac avec la voix d'Héloïse Auria. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'émission ou la séquence qui vous intéresse en allant sur les plateformes de téléchargement de podcasts.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Milliards de voisins, l'école à la radio, il y en a pour les petits et les grands. Retour sur Terre avec quelques problèmes à résoudre. Bonjour Didier Akouété.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes président d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. Vous êtes en direct d'Abidjan, cloué au sol comme les avions. Et vous vous êtes mis en tête de relire vos manuels d'économie à la lumière de la pandémie qui sévit dans le monde. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport aux économies africaines, Didier ?
Alors, globalement, si on écoute les Cassandres, c'est que les économies, de manière globale, vont s'effondrer, et donc être en récession, y compris les économies africaines, qui étaient déjà fragiles, puisqu'elles reposent en partie sur l'exportation de matières premières. Donc, on est plutôt face à une triple crise qui s'annonce, si ce n'est pas bien géré, une crise sociale, sanitaire, évidemment, économique, avec des citoyens et des Africains qui vont beaucoup souffrir compte tenu de la formalité de l'économie et du fait que les revenus ne sont pas régulés pour beaucoup d'Africains, et avec l'envolée des denrées agricoles sur les marchés, on risque effectivement d'avoir la triple peine. Et comme le disait un ami, un voisin, Curtis, on pourrait avoir une flambée, une sorte d'implosion sociale, voire une révolte sociale si cette crise n'est pas gérée rapidement. Donc c'est une crise économique qui peut être doublée d'une crise sociale assez rapidement, plus une crise sanitaire compte tenu du fait qu'on n'a pas vraiment tiré, je pense, les leçons de la crise d'Ebola en termes d'infrastructures sanitaires qui avaient été promises par les États, les partenaires au développement après la crise d'Ebola. Donc on est quand même dans une situation de fragilité économique qui pourrait nous jouer des tours si cette crise sanitaire s'installe durablement.
Alors, ceci dit, en Afrique de l'Ouest, il y a quand même eu les annonces de la BCAO pour les pays de l'UEMOA qui devraient, je pense aux entreprises, parce que c'est le monde qui vous intéresse et qui nous intéresse tous, avec peut-être notamment des reports de crédits à rembourser auprès des banques pour les entreprises.
Écoutez, c'est vrai que la BCAO a fait quelques annonces en injectant un peu de liquidité dans l'économie, mais on n'est pas encore au niveau de ce qu'on voit dans les pays développés où on a des vrais plans de stimulus avec des milliards de dollars investis dans les économies, enfin, qui vont être en tout cas réinvestis dans les économies. Et puis, les ménages ont droit à des subsides, comme on dit, les entreprises, des différés de paiement. On n'est pas encore dans cette configuration pour l'instant, même si Afreximbank, par exemple, promet 3 milliards qu'Afreximbank va mettre à disposition des pays, des organisations financières, etc. Mais disons qu'on n'a pas un plan de relance réel pour l'instant, malgré ces annonces, puisque le banquier, in fine, même si vous injectez du cash dans l'économie qui va via les banques, le banquier du jour au lendemain ne va pas accorder plus de découvert à son client, faire un crédit plus facilement, ouvrir les vannes du crédit.
Oui. Et puis il faudra bien rembourser.
Si vous ne donnez pas au banquier des garanties, le banquier du jour au lendemain ne va pas subitement se mettre à distribuer le crédit aux entreprises. Et donc ça, c'est un vrai souci.
Moi, je suis curieuse de savoir comment vous relisez vos manuels d'économie en ce moment, Didier, parce que vous êtes au chapitre des modèles économiques, vous m'avez dit. Alors c'est vrai que les fameux modèles économiques, on n'arrête pas d'en parler ces dernières années. On a beaucoup dit que les start-up, c'était un nouveau modèle économique. Ça, c'était peut-être le monde d'avant, je ne sais pas, parce que là, on ne sait pas bien où on va. Mais alors, quel est l'état de vos réflexions par rapport à ce chapitre des modèles économiques, par rapport à ce que vous voyez autour de vous, là, à Abidjan ?
Effectivement, finalement, le Covid-19 lui donne un peu plus de temps pour réviser nos manuels d'économie et nos bases de littérature économique. Effectivement, le modèle financier, on en a beaucoup parlé ces dernières années en raison des startups, mais finalement, le modèle économique, Tout le monde, que ce soit une micro-entreprise, une TP, une PME, doit avoir un modèle économique parce que le modèle économique ou le business model, comme on dit, c'est simplement la manière dont une entreprise va générer de la rentabilité. Une entreprise va gagner de l'argent. Mmh. Et ça touche plusieurs fonctions, l'entreprise. Les start-up, on en parlait, qui sont très à la mode, quand on dit mon modèle économique, c'est par exemple de donner accès gratuit à mon site et puis vendre des services marchands derrière. C'est un modèle économique qui permet de gagner de l'argent. Mais en Afrique, comme vous le savez, avec ce Covid, beaucoup de commerces sont fermés, oui. Notamment les petits commerces, les restaurants. Vous dites, je suis à Abidjan actuellement, je me suis amusé à aller chercher mon poulet grillé préféré ce dimanche. Tous les maquis ont fermé, donc je n'ai pas trouvé. De temps à autre, quand vous allez au plateau pour déjeuner, les restaurants sont fermés, tout le monde a fermé.
La question là, ce que se posent les restaurants, les maquis qui sont fermés, c'est en gros, est-ce que ces entreprises-là doivent se tourner vers de nouveaux modèles? Qu'est-ce qu'il faut réinventer là, quand on est restaurant et qu'on a fermé?
Finalement, la restauration est un modèle jusqu'à présent où vous alliez vous asseoir au restaurant et on vous servait, sauf éventuellement les pizzerias où vous pouviez commander à distance. Donc la restauration, que ce soit le petit maquis ou le restaurant, peut réinventer son modèle économique en essayant de voir dans sa chaîne de valeur ce qui peut lui permettre d'aller vers son client. Et c'est là où justement, dans son modèle, la distribution prend tout son sens puisqu'on peut imaginer des services de livraison à distance. Si par exemple, celui qui faisait le grillé poulet avait pris mon numéro de téléphone, il aurait pu m'envoyer un petit SMS.
Ah oui, il vous connaissait sûrement, c'est ça, il connaît votre nom, il vous connaît de tête, mais il ne peut pas vous récupérer là. Parce que
il n'a jamais pris mon numéro de téléphone, alors qu'il aurait juste suffi qu'il fasse du marketing direct, qui prennent mon téléphone et m'envoient un SMS en disant « Monsieur, à côté, votre poulet grillé préféré, je le fais maintenant de la maison, passez le chercher. » Ça s'appelle du marketing direct. Le restaurant prestigieux au plateau dont je parlais, qui peut faire la distribution, peut tout à fait ouvrir un site internet, lancer un service de livraison au bureau, puisque certains continuent de travailler, et me livrer mon plat préféré au bureau pendant que je travaille. Mmh. Évidemment, ça suppose de réinventer son modèle, parce que vous allez revoir votre marketing, revoir votre stratégie de distribution, vous appuyer peut-être sur une société de livraison, ou peut-être reconvertir vos emplois de livraison, revoir les conditions d'hygiène, les conditions de santé. Donc, vous renvoyez votre business model en intégrant dans votre business tous ces éléments qui parfois, c'est vrai, ne sont pas faciles à mettre en place, mais qui permettent finalement de sauver le business pendant les périodes de crise. Et on peut aller sur plein d'autres secteurs où effectivement, finalement, comme on dit, les crises sont des opportunités que ça crée pour les entreprises lorsqu'elles savent revisiter leur modèle de génération de revenus. Ça veut aussi peut-être dire que pendant la crise, certaines entreprises, on parlait des restaurants, peuvent tout à fait intégrer tout de suite un modèle alternatif en disant « Tiens, ça peut compléter mon revenu, même si demain j'ouvre et que les clients reviennent s'asseoir, etc. etc. » Combien de restaurants n'ont pas de site internet, par exemple?
Changer de modèle économique dans l'urgence. Bon, merci Didier à côté. On continue de discuter, bien sûr, parce qu'on va vous retrouver maintenant. Vous êtes un chroniqueur captif grâce au coronavirus. Donc, vous allez revenir dans l'émission ce jeudi pour répondre à des questions d'entrepreneurs qui se demandent comment faire survivre leur business en ce moment. Donc, les voisins, les voisines, si vous êtes en train de créer une boîte, que votre entreprise marchait bien, mais là, boum, il n'y a plus rien, il y a la pandémie, c'est le moment de nous contacter. Appelez-nous, envoyez des messages WhatsApp 33 1 84 22 71 71. Un message audio synthétique, vous exposez votre situation, vous posez une question claire. Et nous, on se retrouve demain, 7 milliards de voisins, l'école à la radio.